7h35, le grand témoin avec vous, Louis Dauphren.
Ce sera dimanche prochain la journée mondiale du bénévolat. Le temps se refroidit et les ONG présentes sur le terrain de la précarité rechargent les batteries de leur militantisme. Depuis la création de l'hôpital de Jérusalem, on est au milieu du 11e siècle. La communauté des hospitaliers soigne les malades et recueille les indigents sans distinction de religion, d'origine et d'âge. Depuis Charles Quint, l'ordre a pris ses quartiers sur l'île de Malte après avoir quitté l'île de Rhodes. Aujourd'hui, l'ordre souverain de Malte déploie une multitude d'activités, des maraudes sociales aux établissements de soins, aux EHPAD, avec un savoir-faire que représente le secourisme, le secours d'urgence. On le connaît aussi beaucoup sur ce terrain-là. À l'approche de Noël, après un week-end dominé par le froid et la neige, l'opinion est plus sensible à la détresse. Elle se mobilise davantage en faveur des actions de solidarité. Cela fait 20 ans que Cédric Chalret-Durieux est engagé à l'Ordre de Malte, maraudeur social à Paris avant de devenir secouriste. Il a organisé en partenariat avec la Marine nationale le camp international en 2015 avec plus de 200 personnes en situation de handicap à Brest. Il était secrétaire général depuis 2018. Il est aujourd'hui le président de l'Ordre de Malte, bénévole, et je suis heureux de le recevoir ce matin.
Bonjour,
Cédric Chalret-Durieux.
Bonjour.
Alors par ailleurs, vous avez une vie professionnelle, hein. Vous êtes président de l'Ordre de Malte à titre bénévole, je le répète, mais vous êtes avocat, directeur juridique d'un grand groupe immobilier. Ça vous prend combien de temps, l'Ordre de Malte, d'ailleurs, par jour, en fait, en termes de mobilisation?
Ça prend beaucoup de bandes passantes en dehors du boulot.
C'est ça, vous arrivez à faire les deux? Apparemment, oui.
Les journées commencent très tôt et se terminent très tard, et le week-end compris. Mais j'aime beaucoup cette phrase de Guy de Maire qui fait hurler mes amis, tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Donc voilà, c'est un engagement, il durera le temps qu'il durera, mais la mission est tellement belle qu'on donne.
Voilà. Alors, le Covid a plutôt favorisé le recrutement des jeunes.
Oui, ça a plutôt favorisé le recrutement des jeunes, comme vous dites, parce que alors j'entends que beaucoup d'associations ont du mal à recruter, mais nous, force est de constater qu'entre l'année dernière et cette année, au global, on est à plus 9% en recrutement.
Comment l'expliquez-vous ?
Alors, je pense, première vague de Covid, c'était bien d'aller servir aussi, ça permettait de sortir du confinement, ça permettait d'avoir un laissez-passer, puis les gens voulaient se rendre utile, sincèrement. Donc là, on a réussi à stabiliser, à garder avec nous, dans une tranche 18-35 ans, allez, j'allais dire 20-25% de ceux qui venaient. Mais ce qui nous a permis quand même de quadrupler les maraudes à Paris. On était à une maraude et là on a quadruplé les effectifs. Et ce qui était pas mal parce qu'il y avait beaucoup d'associations qui avaient un public plus âgé. Or nous, et ça avait donné lieu à pas mal de remous en interne, on avait décidé que les plus de 65 ans, pour des raisons de sécurité pour eux-mêmes, étaient priés de servir différemment et de rester à la maison. Deuxième vague, on a sécurisé 50% et stabilisé 50% des bénévoles avec nous. Donc vraiment un fort recrutement. Après, quand on regarde de façon un peu plus fine, on voit que voilà, il y a un peu plus de difficultés dans des zones plus rurales pour recruter. Dans les zones urbaines, avec des grands centres étudiants, là, pas de problème. Et un petit essoufflement aussi sur les actions de sécurité civile, parce qu'on a des secouristes qui ont donné vraiment beaucoup. Mmh. 24 heures sur 24 dans les évacuations Chardon, Hippocampe en avion. Et là, on sent que voilà, il y a une petite lassitude. Mais donc, on relance, on redynamise tout ça. Il y a un fort sentiment d'appartenance chez nous de la part des bénévoles. Donc, on relance tout ça. On a sorti un petit clip de recrutement la semaine dernière qui est basé sur les valeurs fondamentales.
Hein. Ça fonctionne en fait. Hein.
Oui, Saint-Mathieu, ça fonctionne toujours.
Ce que veulent les jeunes en particulier, qu'est-ce que c'est? Les maraudes sociales surtout?
C'est un peu tout. J'allais dire, on est tellement multicarte à l'Ordre de Malte que l'engagement, il peut être à la carte. Mais quand on a pris son engagement, qui peut être trimestriel, hebdomadaire, mensuel, bah après on le tient. Le jeune qui vient chez nous, il suffit de remplir un doodle une fois par mois et il dit, bah, ce mois-ci je fais, ce mois-ci je fais pas.
Donc un calendrier sur Internet.
Oui, c'est ça. C'est des calendriers partagés. Après, les actions de secourisme, c'est un peu plus compliqué parce que là, il faut être formé. On fait des gardes. Je faisais une garde moi-même avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Là, on a la santé et la vie des gens entre nos mains. Donc là, c'est une exigence plus forte et un engagement plus fort. Mais voilà, on est multicarte, à la fois, comme vous le disiez, dans le secours d'urgence, à la fois dans la précarité, à la fois dans l'aide pour les personnes handicapées, en appui de nos salariés, puisqu'on a un millier de salariés en France et 13 établissements. Donc voilà, c'est multicarte.
Vous êtes un ordre religieux au départ, oui. Et vous êtes une ONG laïque au regard de la République. Oui. Comment articulez-vous les deux?
Ah, il y a le droit canon qui vient s'appliquer entre les deux, forcément. C'est-à-dire qu'à Rome, effectivement, nous sommes un ordre religieux. Ça, c'est la première chose. Nous sommes aussi un État souverain. puisque nous avons des relations avec de nombreux pays, d'État à État, des passeports diplomatiques, des relations diplomatiques. Et en France, le général de Gaulle disait « Achetez-vous un rocher et je vous reconnaîtrai comme État ». En France, tel n'est pas le cas, mais nous avons des relations privilégiées avec l'État.
Le fait d'être un État, d'avoir des relations diplomatiques, ça veut dire que vous pourriez avoir des ambassadeurs, des représentations.
On les a.
Vous les avez à titre, c'est-à-dire vous êtes reconnu dans les institutions comme UNESCO, etc.
Exactement, nous sommes à l'UNESCO, nous sommes reconnus par 110 pays à travers le monde. Ce qui fait que ça facilite quand même les relations parce que, en plus d'être une ONG, nous avons donc ce statut international.
Qui n'est pas si fréquent.
Non, qui est même le seul, on va dire, pour dire une ONG. Là, je pars à Madagascar mercredi, parce que Madagascar est confronté
une famine climatique.
Une famine très très forte qui touche 1,5 million de personnes dans le sud du pays avec des déplacements de population. Sans doute la première famine qui est due au réchauffement climatique. Voilà, nous pouvons avoir des relations avec les ambassadeurs de différents pays, représentants de l'ONU qui sera sur place, du programme alimentaire mondial, et ce qui nous permet d'avoir une diplomatie de la charité. Et ça, c'est pas mal de faire entendre cette voix-là au XXIe siècle, la diplomatie de la charité.
Qu'est-ce que vous dites, Cédric Chalerey-Durieux, sur la question migratoire, par exemple ? Puisque si vous avez justement une diplomatie, si vous avez une parole auprès des États, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce qui arrive aujourd'hui en Europe et à ce début des vagues de réfugiés ? Puisque si on parle de la cinquième vague du Covid, on parle aussi de vagues migratoires. Alors, ce n'est évidemment pas équivalent, mais dans la psychologie des foules, cela joue aussi sur un phénomène anxiogène assez important. Et puis surtout, on voit l'impéritie du monde politique qui laisse en déshérence des personnes sur les côtes de la Manche.
Nous, l'Ordre de Malte France, nous intervenons dans 26 pays à l'international. Et nous avons des hôpitaux, une quinzaine d'hôpitaux en Afrique, dans ce qu'on pourrait résumer l'ancien empire français. Nous avons fait le choix dans des zones qui sont pourtant de plus en plus déstabilisées, parce que nous sommes dans des pays tels que le Mali, le Bénin, le Burkina Faso. Nous avons fait le choix de rester là-bas et d'aider là-bas, et de faire du transfert de savoir-faire aux populations là-bas, justement pour, à notre petite échelle, essayer d'éviter à ce que les gens qui aiment et qui souhaitent rester dans ces pays ne soient déracinés. La même chose.
Donc vous avez un discours sur les frontières.
Mais on essaye vraiment sincèrement de rester le plus longtemps possible dans les pays, malgré la déstabilisation politique, la poussée d'ACMI, par exemple, en Afrique subsaharienne, pour que les populations puissent rester là-bas. Et comment dire, être heureuse, parce que dans leur pays, quelqu'un qui vient, qui est déraciné, qui change de pays, c'est, à la base, c'est un malaise. Il n'a plus de quoi se nourrir, il n'a plus de quoi élever sa famille. C'est comme, on le voyait, on en parlait tout à l'heure sur Madagascar, sur le 1,5 million qui est touché. On le voit dans la capitale Tana, de plus en plus de gens viennent. Donc nous, on a cette action-là et on l'amène en plus, là, dans le cadre de notre nouvelle stratégie 2025, on l'amène et on la renforce aussi pour les chrétiens d'Orient. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui est irakien a envie de venir habiter en France? Je ne pense pas. Il souhaite rester là-bas, mais il faut qu'on puisse l'aider à rester là-bas. Puis après, quand ils sont là, on les aide, forcément. Nous soignons depuis 950 ans et nous accueillons sans distinction d'origine, de religion ou de race. Donc, notre frère qui est là et qui a cette parcelle de divinité en lui, nous allons le servir.
Qu'est-ce que vous préconisez concrètement sur cette question des frontières entre la Grande-Bretagne, par exemple, et la France? Est-ce que vous êtes consulté même? Parce qu'on entend beaucoup d'associations parler, la plupart du temps, dans un sens relativement univoque, qui culpabilise aussi les autorités françaises qui ne font pas beaucoup d'efforts, semble-t-il, ou qui ne savent pas comment faire. Est-ce que vous avez, par exemple, au chapitre diplomatique, un point de vue sur les accords du Touquet, des choses comme ça?
Non, ça, nous n'en avons pas, puis nous n'avons pas été consultés non plus là-dessus. J'allais vous dire, c'est un problème sans fin et sans fond. C'est-à-dire que titre personnel, on le voit, l'Europe a eu des changements de politique sur les vagues migratoires qui venaient du Grand Sud. Et là-dessus, force est de constater qu'elles n'ont pas marché, soit à la fermeté, soit un peu moins de fermeté, mais qu'elles n'ont jamais marché à l'arrivée. Et quand vous avez une pression qui arrive telle que celle-ci, je pense que la meilleure solution, ça reste toujours d'aider à la racine pour éviter que la pression ne se crée. Alors après, Il y a des fois où on n'a pas le choix, c'est-à-dire que vous avez du réchauffement climatique, ça, malheureusement, des guerres, voilà. Et ça, ça, fait, ça crée des vagues de population. Notre précédent grand maître, Fra Mathieu Festing, qui sera enterré vendredi à La Valette, beau symbole, disait, voilà, c'est l'enjeu de demain, c'est 1 milliard de personnes déplacées. Et c'est le, ce sera un des véritables enjeux que nous aurons à relever.
Est-ce qu'il y a un risque que des associations, que les ONG ne puissent pas faire face ?
Non mais de toute façon déjà les associations, les ONG, nous ne sommes qu'une goutte d'eau dans le désert. C'est-à-dire que la pauvreté, même en France, si on revient sur un sujet vraiment franco-français, avec le Covid, on pense que c'est 10 à 15% d'augmentation de la pauvreté. Donc,
ne depuis serait-ce deux que... ans ?
Ah ben, depuis deux ans, oui. C'est à la fois...
Comment le mesurez-vous ?
Oh, ça, c'est assez facile. On le mesure de façon empirique. À la fois, pendant le Covid, il y a plein de jeunes qui se sont fait embarquer, qui étaient dans une maison, on va dire, trop faible, sans trésorerie, pas forcément de famille autour d'eux, et qui se sont retrouvés à la rue. Des gens qu'on ne voit pas. Ce n'est pas le SDF classique qu'on voit sur le trottoir, etc. C'est des jeunes qui avaient un travail et qui n'avaient plus de logement. C'est des familles qui n'arrivent plus à se nourrir. Toutes les études le montrent, Secours populaire, Secours catholique, un Français sur cinq saute des repas. Et donc ça, nous, on se redéploie là-dessus, on fait dans l'agilité. On lance des épiceries solidaires, telles que d'autres associations, parce qu'on se rend compte que les besoins sont là. On lance des food trucks, parce que le pauvre qui est sur le trottoir, il a le droit de manger équilibré. C'est-à-dire que les invendus des supermarchés, c'est bien, mais il a le droit de manger équilibré. Voilà. On va se relancer et se redéployer là-dedans. Donc ça, c'est vraiment une pauvreté qu'on mesure. Et puis après, ça a empêché aussi des sorties de la pauvreté. Voilà. Donc ça, nous allons le faire, mais nous tentons de le faire aussi en partenariat avec d'autres grandes associations, le Secours catholique, Saint-Vincent-de-Paul, voilà, parce qu'il faut s'unir. Au moins, les associations catholiques en France, on n'est pas assez unis.
Qu'est-ce qui vous distingue, Cédric Chalerey-Durieux, du Secours catholique ?
Pas grand-chose. On le fait pour le Christ. Chacun avec sa spécificité, chacun avec son histoire, mais on le fait pour le Christ. Et puis, l'objectif, c'est de faire de... Mais eux aussi, parce que je l'ai rencontré la semaine dernière, voilà, de la qualité. Mais on a chacun nos budgets, chacun nos moyens, petits ou grands, et l'objectif, c'est vraiment de s'unir, quoi. L'union fait la force, comme le dit l'autre, bah, c'est ça qu'il faut faire.
Vous êtes directeur juridique d'un groupe immobilier. Est-ce que ce n'est pas... Comment dirais-je ? Est-ce que ce n'est... Non, je ne dis pas paradoxal, ce n'est pas ça, mais vu la question de l'immobilier en France, qui est quand même très problématique et très tendue sur des zones, évidemment Paris, mais il n'y a pas que Paris... Il y a une segmentation territoriale qui se fait beaucoup, peut-être plus que dans d'autres pays, peut-être plus qu'en Italie, plus qu'en Allemagne, sur la ségrégation immobilière, pourrait-on dire. Est-ce que vous avez un regard là-dessus ? Est-ce que ça porte sur votre action ?
Alors, nous, dans mon groupe, nous sommes à la fois promoteurs, puis après nous faisons de la gestion de véhicules destinés au public pour quand ils investissent leur épargne, mais sur la promotion immobilière, une très grande partie de notre activité consiste à construire des logements sociaux. D'abord parce que la loi nous l'impose. Mais
donc la loi SRU, 20% ?
Exactement, nous l'impose en fonction des mairies. Donc nous construisons des logements sociaux et le besoin de logements sociaux en France et le besoin de logements, de toute façon, augmente de façon très forte. Donc la promotion immobilière voilà, prend en compte ces éléments-là.
Pourquoi le besoin de logements sociaux augmente-t-il alors que la démographie n'est pas du tout dynamique ?
C'est le besoin de logements tout court déjà, dont on a besoin, en Île-de-France en particulier, parce que vous avez une croissance démographique forte sur la région Île-de-France. Et puis après, ce que l'on essaye de faire aussi, c'est de l'intergénérationnel. C'est de l'intergénérationnel. Voilà, il faut mixer entre des gens qui sont de catégorie un peu plus aisée, d'autres qui le sont moins, des handicapés, des seniors, des juniors. Voilà, c'est cela qu'on veut faire. Et si on revient sur l'ordre de Malte, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous voulez sortir un SDF de la rue, vous devez lui apporter 4 choses. À la fois de l'alimentation, du social, la santé, parce que ça c'est aussi un élément dont on a vu qu'il y avait c'est un élément de la crise, c'est-à-dire que les SDF ne se soignaient plus, et après derrière le logement. Et si vous n'avez pas ces 4 éléments-là, vous ne pouvez pas sortir la personne. Et il faut en plus faire ces actions-là, non pas sur du court terme, parce que là vous faites de la mise en sécurité, il faut le faire sur du long terme ou du moyen terme, à tout le moins 6 mois, 7 mois, 8 mois, pour qu'il se reconstruise, qu'il refasse ses CV, qu'il retrouve un emploi, qu'il se crée une trésorerie pour pouvoir après voler de ses propres ailes.
Et logement, comment faites-vous sur cette question-là ?
Alors nous avons par exemple à Paris 2 péniches, une devant France Télévisions, qui est de Javel, et puis une deuxième à Asnières, sur lequel la première c'est de la mise en sécurité immédiate pour sortir les gens. Là, il commence à faire très froid à Paris. Alors on les sort pour qu'ils évitent de mourir sur le trottoir, pour dire les choses crûment. Et la deuxième, c'est 6 mois. Et là, on est dans ce cycle de mise en œuvre. Nous avons un projet, je vous en parlais, avec la conférence Saint-Vincent-de-Paul à Bordeaux, où notre objectif là-dedans, dans ce dispositif, c'est à la fois de tenir le dispensaire, et puis ensuite, j'espère qu'avec nos partenaires, nous trouverons des lieux pour les mettre en sécurité sur le moyen terme.
Cédric Chalerey-Durieux, comment appréhender le plan grand froid? Quand commence le froid, en fait? Parce qu'il semblerait que si... Selon les critères institutionnels, le froid ou le grand froid ne concerne que quelques jours par an.
Oui, parce que c'est, il faut pas que les températures repassent au-dessus du zéro.
Et ben là, on n'y est pas, non?
Non, on n'y est pas.
Donc ce n'est pas le plan grand froid. Non, et pourtant, si on dort à l'extérieur,
Et vous savez, tous les ans. Alors nous, on mène sur la précarité en France, on mène 10 000 actions par an, dont une partie se concentre justement sur l'hiver. On ne nous attendons pas, on va dire malheureusement que le froid soit là ou qu'il commence à neiger, etc. Mais voilà, il est de bon ton tous les ans, on va dire, que ce soit médiatiquement d'ailleurs ou que ce soit politiquement, que les gens s'emparent de ça quand il fait froid. Bon, tant mieux, mais les problèmes, ils sont là bien aussi sûr. Quand il fait chaud. Donc voilà. Donc oui, ça permet des mises à l'abri, on ouvre des gymnases.
Mais est-ce qu'on pourrait les ouvrir à 7 degrés, par exemple? Parce que dormir à 7 degrés dans la rue...
On pourrait, oui, mais c'est...
Qui négocie ça?
Bon, ça, c'est sur les pouvoirs publics, d'accord, qui le décrètent, avec le SAMU social de Paris. Ensuite, nous, derrière, nous menons cette action toute l'année. Après, comme je vous le disais, on fait du palliatif, là. On fait pas du curatif. Le palliatif, c'est bien, mais le curatif, c'est mieux. Et pour faire du curatif, c'est les 4 actions qu'il faut mener conjointement pour pouvoir les sortir.
Dont le logement et la santé.
Et la santé.
Le Ségur de la santé, en quoi a-t-il une influence sur votre action?
Il en a eu une très forte l'année dernière. Nous avons 2 EHPAD et le reste des établissements, les 11 autres établissements, sont des établissements soit pour autistes, soit polyhandicapés, etc. Et l'année dernière, à la sortie du Covid, le gouvernement avait fait une revalorisation de salaire pour les personnels médicaux et paramédicaux dans les EHPAD. Ce qui était très bien pour eux, puisque ça donnait 183 euros net par mois en plus sur une fiche de paye, ce qui est quand même pas neutre. Mais le problème, c'est que ça crée une distorsion entre le reste du secteur médico-social. Vous aviez des gens... Alors déjà, il y a un manque chronique d'aides-soignantes et d'infirmiers en France.
Mais ça, c'est... Et encore plus avec le Covid.
Là, ça ne va pas se régler en 2 secondes, parce qu'il faut 3 à 4 ans pour former les gens. Première chose. Deuxième chose, avec le Covid, il y a des gens qui n'en pouvaient plus. Donc, ils ont arrêté, qui ont changé de job. Troisième chose, vous avez le pass sanitaire qui est passé par là. Donc, nous, on a été peu impactés par ça à l'Ordre de Malte-France. Mais le pass sanitaire, c'est quand même des gens qui n'ont pas voulu aussi se faire vacciner. C'est leur droit. Mais nous, on était obligés de les suspendre. Donc, vous prenez ça et puis vous prenez enfin donc ce qu'on se disait, le fait que certains ont été revalorisés et pas d'autres. Et donc, vous avez des aides-soignants, des infirmières qui sont partis du secteur du médico-social pour aller se mettre dans les EHPAD. Or, dans les EHPAD, on n'a pas un taux de remplissage, à tout le moins les nôtres, qui est plein. Pourquoi ? Parce que je pense que les gens ont peur, on va dire, d'une cinquième vague, que l'on referme les EHPAD et que donc leurs anciens soient séparés d'eux dans les derniers jours de leur vie. Moi, j'avais une personne qui...
Vous n'avez pas le choix de faire autrement ? Vous ne pouvez pas dire, moi, EHPAD catholique, par exemple, je décide que bah, y aura quand même des visites...
Mais on essaye de les faire. Mais on essaye.
Vous avez l'ARS sur le dos, si vous le faites?
Avec l'ARS, on ne les a pas sur le dos. On travaille avec eux, mais on essaye de les faire. Après, derrière, il faut vraiment qu'on soit dans des mesures de sécurité, parce que si c'est pour faire naître un cluster au milieu de l'établissement, c'est pas terrible. Donc voilà. Nous, on a très très bien résisté à la crise l'année dernière sanitaire. On a eu très peu de décès liés au Covid. Mais dans un de nos EHPAD, voilà, il y a eu un cluster qui s'est déclenché. On l'a bien géré, mais le cluster s'est déclenché. Donc là-dessus, le gouvernement vient de faire un effort pour revenir sur le Ségur de la santé en réinjectant 120 millions d'euros. C'est bien, ça pourrait être plus. Parce que derrière...
Mais ça crée des frictions.
Ben oui, ça crée des frictions, parce qu'au sein d'un même établissement, vous avez des gens qui vont être augmentés et d'autres qui vont...
Bien sûr.
Donc derrière, comment vous voulez mener une politique RH apaisée au sein de la structure. On a interpellé les pouvoirs publics, j'en ai parlé au Premier ministre à deux reprises, il le sait, et malheureusement, comme c'est une crise structurelle avec un manque structurel de personnel sur la filière, bah, il faudra attendre 2-3 ans avant que les gens ne soient formés et qu'ils arrivent dans ces métiers, qui sont des métiers ingrats, mais tellement importants. Voilà, s'occuper d'une personne alitée, parce que sans elle, la personnalité ne peut rien faire, quoi.
On est mieux traité dans les EHPAD de l'Ordre de Malte ?
Non, je dirais pas ça. J'espère que l'on met en exergue notre devise « La maison offre ce qu'elle a de meilleur ». Voilà, c'est ce qu'on essaye vraiment de faire. Mais c'est pas que du matériel, c'est pas que du qualitatif, c'est aussi l'esprit dans lequel on le fait. Donc ça, c'est important. Nous, la personne, on veut la prendre dans toutes ses composantes. À la fois sa composante physique, mais aussi sa composante psychologique et surtout sa composante spirituelle derrière.
La journée du bénévolat, dimanche prochain, Cédric Chalerey-Durieux, est-ce qu'aujourd'hui, il y a, vous avez parlé des jeunes, mais il y a aussi toute une partie de la population. Il y a 13 millions de plus de 65 ans en France. Ouais. On sait que le cap de la retraite est souvent très difficile si on ne l'a pas anticipé. Est-ce qu'il y a des vocations qu'on peut susciter auprès de ce public-là ?
Ah ben moi, je ne recrute pas que des jeunes. On a recruté des jeunes l'année dernière en vague de Covid, comme on le disait, parce qu'on avait mis nos anciens en protection quand ils avaient plus de 65 ans. Mais les actions chez nous, c'est de tout type. Comme je vous le disais, on est protéiforme. Donc derrière, cette journée du bénévolat, qui sera fêtée dimanche, mais que nous fêtons demain.
Oui, ça commence dès demain, par une campagne.
Demain soir, elle s'adresse à tout le monde. Nous avons une délégation, par exemple, aux Invalides, où nous allons voir les milita qui ont été blessés, qui sont là. Il n'y a pas besoin d'avoir 18 ans. C'est-à-dire que quelqu'un de 65 ans va venir. Il faut créer ce lien social. Là, l'objectif, ça va être de discuter avec la personne, de lui faire s'échapper des quatre murs de sa chambre. Donc, les actions chez nous, elles sont multiples là-dedans. Vous allez vraiment pouvoir trouver, si vous le souhaitez, quel que soit votre âge, et ça commence chez nous, pour les routiers scouts ou les CP, on va dire, les chefs de patrouille qui viennent, jusqu'à moi j'ai un médecin qui dirige deux maraudes médicalisées à Paris et dans les Hauts-de-Seine, et il a 80 ans. Et il est là, toujours bon pied bon oeil, deux fois par semaine, aller faire de la consultation médicale dans les rues de Paris.
Les médecins peuvent vacciner chez vous ? Ils ont pouvoirs.
Les médecins peuvent vacciner depuis peu de temps, parce que la médecine foraine en France interdisait normalement les actes de santé comme ça. Donc là, c'est une des bonnes choses du Covid aussi, ça change. Donc là, outre le fait qu'on ait obtenu les autorisations préfectorales pour pouvoir vacciner, mais pour le Covid, on vaccine aussi pour la grippe en ce moment. On a récupéré des doses de vaccins, et donc on fait le petit cabinet médical qui va jusqu'à la vaccination sur le trottoir.
Merci Cédric Chalerey-Durieux. Vous êtes président bénévole de l'Ordre de Malte. Vous allez à Madagascar bientôt. Ce sera l'occasion peut-être aussi d'en reparler une fois que vous aurez fait votre voyage. On verra de quelle manière pour cette première famine climatique dans le sud de Madagascar. Vous y partez cette semaine. Je vous remercie d'être venu pour l'Ordre de Malte dont vous êtes président. Et je vous souhaite une excellente journée.
Merci et à vous pour votre invitation. Bonne journée.
À bientôt.